Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïka, réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à tous, bienvenue pour 20 minutes d'émission dans laquelle on vous parle d'Europe. Alors que l'Union européenne sort de la plus grande crise sanitaire et certainement la plus grave crise économique qu'elle ait eu à connaître de toute son existence, nous avons le plaisir d'accueillir au téléphone Michel Devoluy. Bonjour Monsieur Devoluy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle, vous êtes professeur honoraire des universités et titulaire toujours d'une chaire Jean Monnet d'économie européenne. Vous avez fait la quasi-totalité de votre carrière universitaire à Strasbourg et avez été pendant 20 ans le responsable éditorial du bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Europe, dont un dernier petit essai, Osons enfin les États-Unis d'Europe. Dans cet ouvrage, on pourrait même dire, dans ce plaidoyer, vous soulignez les faiblesses de l'Union européenne, ses blocages institutionnels, ses politiques inachevées, sa doctrine trop libérale, sans pour autant nier ses apports. Et appelez aussi, donc comme dans le titre, à oser le fédéralisme et enfin faire les États-Unis d'Europe. Donc nous profitons de cet entretien pour avoir votre regard et votre analyse sur la situation actuelle que connaît l'Union européenne, mais aussi avoir votre opinion sur les réponses économiques de l'Union européenne face à cette crise. Cet essai est paru il y a tout juste un an. Pourquoi avoir écrit ce plaidoyer pour une Europe fédérale et qu'entendez-vous par les États-Unis d'Europe?
Alors, il y a un an, parce qu'en fait, je n'avais même pas prévu d'écrire cela, mais voyant arriver les élections européennes et voyant beaucoup de questionnements et de désamour pour l'Europe, j'ai pris la plume de manière un peu, disons, impulsive, si je puis dire, et j'ai poussé mes opinions jusqu'à leur terme de manière très directe en disant, plutôt que de se plaindre de l'Europe, qui a ses faiblesses, vous les avez excellemment résumées, incidemment, il faut avoir conscience que sans Europe, à la fois les citoyens européens et les États, dans un monde en plein mouvement, où la géopolitique est bousculée, où l'environnement est bousculé, où on s'interroge sur le modèle économique et social qu'on aurait à mettre en place. Dans cet environnement-là, donc, ce que l'on a de mieux à faire, c'est enfin de faire le dernier pas, mais le plus difficile sans doute pour les Européens, c'est d'aller vers une union politique. Alors, comme d'une certaine manière, les États-Unis, l'expérience que nous venons de vivre et dans laquelle nous sommes encore, démontre que la répartition des compétences pour être efficace, d'abord en matière sanitaire, mais aussi en matière économique ensuite, conduit ou oblige à un petit peu repenser, bousculer l'ordre institutionnel européen.
Mais l'Union européenne a fait l'objet de critiques dans la gestion de cette crise. On en a parlé, notamment sur la gestion des masques et du matériel médical, mais aussi la fermeture désordonnée des frontières. Pensez-vous qu'une Europe plus intégrée, plus fédérale, aurait pu permettre de mieux gérer les débuts de cette crise? Alors, je sais une question, vous allez peut-être me dire oui, vu que vous parlez d'une Europe un peu plus fédérale. Mais en quoi, finalement, l'Europe telle qu'elle est n'a pas pu répondre à cette question et qu'il faut aller donc plus loin?
Écoutez, l'Europe actuelle, qui a apporté beaucoup de choses, mais c'est sur lesquelles je ne veux pas revenir, mais l'Europe actuelle, je dirais qu'elle a trois limites. La première, c'est que de par sa structure et de par les traités, toutes ses capacités de réaction sont à la fois restreintes et lentes. Il faut des processus décisionnels longs et compliqués, avec les codécisions, le rôle massif du Conseil européen. Tout cela ne donne des capacités de réaction à la fois vigoureuses et rapides. Donc, on pourrait revenir là-dessus, mais les traités, en quelque sorte, lient les mains des États membres, en partie. La deuxième caractéristique de l'Union européenne, vous l'avez dit, actuelle, c'est que, justement parce que ce n'est pas un État en tant que tel, et qu'elle partage la monnaie sans vouloir avoir une intégration politique, eh bien, cette Europe-là, elle véhicule une doctrine économique et monétaire qui est finalement assez frileuse et rigide et d'inspiration très libérale. Et donc, elle le met au cœur de son fonctionnement, la dynamique du marché, et donc de la concurrence radicale, ce qui est en quelque sorte le meilleur moyen de ne pas tenir compte des ce qu'on appelle des biens communs, des intérêts collectifs. On ne peut pas laisser au marché le soin de prendre en charge en particulier les questions sanitaires et autres. Et donc, pour rester toujours sur ce second point, si on n'avait pas une Europe aussi, disons, libérale, probablement qu'on aurait pu gérer les stocks de masques sans avoir en vue de la compression radicale des coûts liés à un stockage. Et par ailleurs, on n'aurait peut-être pas autant externalisé qu'on ne l'a fait l'ensemble de la chaîne de médicaments qui est indispensable à l'entretien sanitaire d'un pays. Et puis la dernière caractéristique de l'Europe actuelle, mais qui est un peu le corollaire des temps, c'est que elle continue à valoriser, ou en tous les cas à laisser libre cours aux égoïsmes nationaux. Et donc, en ne voulant pas de solidarité financière, en voulant préserver coûte que coûte l'unanimité pour des grandes décisions qui en fait impliquent tous les citoyens européens, eh bien, l'Europe actuelle a fait beaucoup de choses. Mais je ne veux pas y insister parce que le temps presse. Mais l'Europe actuelle s'est créée en quelque sorte ses propres limites, notamment en caressant toujours l'idée que les États-nations sont indépassables. Mais les choses changent beaucoup.
Alors revenons sur les réponses économiques qui ont été données à cette crise. D'abord, il y a eu une première réaction qui a mis un peu de temps au petit démarrage, mais ça a été l'action de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que, selon vous, cette pandémie a changé la donne par rapport à l'action de la Banque Centrale ?
Elle n'a pas changé la donne, mais elle a confirmé que la Banque Centrale était très responsable et était dans la capacité d'aller jusqu'aux limites extrêmes de l'interprétation des traités et de ses statuts pour justement soutenir l'économie. Elle le fit avec Mario Draghi, vous le savez, à l'occasion de la crise financière. Mais là, elle a repris la même stratégie en l'accentuant. J'ai sous les yeux, parce que j'ai pas toujours la mémoire des dates, que le 18 mars, la Banque Centrale Européenne a décidé d'élargir son assouplissement quantitatif qu'elle avait déjà actionné avant. Pour faire court, c'est l'idée que la Banque Centrale a la possibilité, ou s'est donné la possibilité, d'acheter beaucoup plus que ne le permettait la doctrine de base des bons du Trésor des États européens. Bons du Trésor qui étaient déjà, je me permets d'y insister, qui doivent déjà être en circulation. Donc ces acquisitions sont sur ce qu'on appelle le marché secondaire.
Concrètement pour nos auditeurs, pour encore simplifier, en gros, elle achète, en achetant ces bons du Trésor, elle achète de la dette des États, c'est ça ?
C'est cela, mais elle l'achète de manière indirecte, puisqu'il n'y est pas permis de l'acheter lorsque les bons du Trésor sont émis. Mais concrètement, c'est cela. Et l'originalité, ou plutôt le pas supplémentaire qu'a fait la Banque Centrale là, c'est qu'elle a, d'une part, du côté de l'exigence de la qualité des titres qu'elle achète, elle a un peu baissé ses exigences pour pouvoir en acheter plus. Et surtout, ça c'est un pas très intéressant, elle tentait, avant la Banque Centrale Européenne, d'acheter des titres publics des États en proportion de la part détenue par ces États dans le capital de la Banque Centrale Européenne. Autrement dit, la Banque Centrale préférait se donner les moyens d'acheter beaucoup plus, disons, de titres allemands et français que de titres grecs ou d'un pays moins important. Et maintenant, c'est très fort comme idée, elle s'est émancipée de cela, donc elle a une attitude beaucoup plus
solidaire,
de communautariser beaucoup l'ensemble des titres. C'est à souligner. Donc, moi, je trouve que les choses étant ce qu'elles sont, la Banque Centrale Européenne est très efficace. En faisant une remarque importante, c'est qu'elle peut l'être parce que l'inflation est faible. Parce que ces statuts explicitement exigent, et le traité, exigent que la Banque Centrale Européenne mette stabilité des prix. Et lorsque la stabilité des prix est maintenue, alors la Banque Centrale Européenne peut participer au soutien des politiques européennes. Donc, pour le dire très crûment, si on avait un taux d'inflation actuel de 3 ou 4%, la Banque Centrale Européenne n'aurait pas les moyens d'avoir cette politique d'aisance quantitative.
Alors partons cette fois sur une autre institution européenne, mais c'est cette fois-ci la Commission qui a lancé ce plan de relance dénommé Next Generation EU, là, d'un montant de 750 milliards d'euros. Déjà, que pensez-vous de ce plan? Et ce plan est-il finalement novateur, comme on l'explique actuellement?
Oui, on a raison de le considérer comme novateur. Parce que ce qui est intéressant, c'est de souligner qu'au départ de la pandémie, dès le mois de février, dès le mois de mars, la Commission, elle était dans son rôle, a utilisé, si je puis dire, pardonnez-moi cette expression un peu légère, les fonds de tiroir, c'est-à-dire des fonds qui n'étaient pas encore utilisés dans le cadre du budget européen pour venir en aide aux États. Mais c'était peu de choses en termes relatifs. Ce fut à l'origine 400 millions d'euros, puis après 40 milliards d'euros. Mais elle était dans son rôle. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Commission, ensuite, et là, on revient à l'architecture institutionnelle de l'Europe, la Commission a suivi en quelque sorte les demandes du Conseil européen, lequel Conseil européen très tôt a dit, écoutez, il faudrait faire des prêts beaucoup plus importants que ne le prévoit actuellement le traité. Et donc, la Commission a commencé à élargir ses capacités budgétaires. D'abord, il faut s'en souvenir, le 13 mars, elle a mis sur la table, si j'ose dire, 540 milliards d'euros, et qui étaient divisés en trois, mais c'est important peut-être de le souligner, c'était d'abord une aide aux États, ensuite une aide aux entreprises, et ensuite une aide au chômage partiel. Je fais court pour pas être trop long avec vos auditeurs, naturellement. Donc ça, c'était avant que la France et l'Allemagne, à travers les voix de Madame Merkel et de Monsieur Macron, disent il faudrait que nous nous émancipions des contraintes actuelles et que l'Europe emprunte ex qualité 500 milliards d'euros et que ces euros prennent la forme de subventions auprès des États en difficulté et que l'Europe ex qualité rembourse cet argent en fonction de ses capacités contributives, mais de la capacité contributive de tous les États. Là, c'est un changement majeur.
Ce qu'on peut peut-être essayer d'expliquer, c'est que finalement, c'est donc la Commission qui va recourir directement à l'emprunt et qui va distribuer c'est le montant de cet emprunt sous forme de subvention ou de prêt également. Mais ce qu'on peut se poser comme question, c'est jusqu'à présent, on a toujours dit la Commission européenne ou l'Union européenne n'avait pas une capacité juridique à emprunter. On disait toujours que
absolument. Mais c'est pour ça que je me permets d'y revenir. La France et l'Allemagne, le 18 mai, ont dit allons-y. Et j'ai omis de vous dire que dès le mois de mars, le Conseil européen avait demandé à la Commission de penser à un grand plan de financement, lutter contre la pandémie. Voilà. Et donc la Commission s'est mise au travail. Elle était déjà impulsée par le Conseil européen. Elle a été en quelque sorte confortée par la déclaration commune de la France et de l'Allemagne. Et donc le 27 mai, c'était l'objet de votre question, il y a quelques jours, la Commission a proposé, parce qu'il faut que les 27 soient d'accord, mais la Commission a dit, moi je vous propose un plan de 750 milliards d'euros, où 500 milliards seront des subventions, c'est-à-dire seront totalement dans la logique que je viens d'évoquer précédemment et que vous avez rappelée, et qui n'était pas conforme au traité. L'Europe emprunte en tant que telle, et fait des subventions, et va rembourser à partir de 2028, en tant que tel. C'est pas les États qui vont rembourser les prêts. Donc ça, c'est pour les 500 milliards. Et la Commission envisage aussi que 250 milliards soient également, mais alors là, empruntés pour le compte des États et que les États auront à rembourser. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Les 500 milliards, c'est vraiment la petite révolution, même une grande révolution.
Et les 250 milliards aussi, puisqu'elle va emprunter à des taux très, très intéressants.
Oui, puisque... oui. Mais là, vous avez raison, c'est aussi une révolution, puisque elle utilise son poids économique pour avoir des taux très attractifs. Mais les États qui vont recevoir ces 250 milliards devront les rembourser, disons, au centime près, au cent près, si je puis dire. Donc, c'est intéressant, mais la vraie révolution, elle est les 500 milliards.
Et il y a une des questions qui se pose aussi, c'est finalement comment elle va rembourser, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas un budget qui lui permet de rembourser ces 500
non.
milliards, ou
alors,
en tout cas, elle n'a pas les outils.
Alors,
quels seraient les outils proposés, ou qu'est-ce qu'il faudrait
alors,
faire selon
là, il y a deux choses à avoir en tête. La première, elle est, comment dire, elle est récurrente, c'est que vous savez que les budgets européens s'inscrivent dans un cadre financier pluriannuel de 7 ans. On va commencer l'année prochaine. Et là, la Commission veut déjà augmenter de manière significative le plafond de ses ressources pour déjà commencer à participer à aider les États. Mais de manière plus fondamentale, la Commission, en tous les cas dans ce qu'elle prévoit, pour les 500 milliards, elle prévoit que l'on va avoir des ressources propres à mettre en face de ces emprunts et que
ce serait dire donc des nouvelles ressources,
des ressources qui n'existent pas. On peut faire court en disant c'est un peu comme si c'est pas un peu c'est l'Europe qui en tant que telle va prélever des impôts. Alors, des pistes sont déjà ouvertes, comme des impôts sur les grandes entreprises multinationales, sur des impôts taxe carbone, des impôts peut-être sur une partie des impôts sur les profits. Donc, tout ça n'est pas encore stabilisé, mais l'idée, c'est que l'Europe devra, à partir de... Si le plan est adopté, n'est-ce pas? À partir de 2020,
c'est là où on va en venir.
À partir de 2028, devra trouver des ressources pour rembourser cet argent. Mais la Commission a mis déjà des pistes en place, n'est-ce pas? En principe, les choses devront aller dans ce sens. Et les contributions des États, si elles sont augmentées, et elles le seront augmentées, le seront sur la base des capacités contributives des États, comme aujourd'hui pour le budget européen, et ne seront pas, je me permets de réinsister là-dessus, ne seront pas sur la base de demandes qu'on ferait aux États qui ont reçu les plus grosses subventions.
La question qui va se poser maintenant, c'est ce que vous développez aussi dans votre petit essai. Il faut que cette proposition soit acceptée. On est au stade de la Commission européenne, c'est une proposition. Et maintenant, on peut un peu dire les égoïsmes nationaux. On a des États qu'on appelle frugaux, des États un peu, on les présente aussi comme les un peu radins, on va dire ça, c'est le terme qui est utilisé, frugaux, qui, eux, ne sont pas d'accord avec cette proposition. Pensez-vous, vous, en tant qu'observateur, en tant que connaisseur des arcanes et des questions économiques de l'Union européenne, qu'un accord peut être adopté sur cette question-là par les États cette fois-ci, puisque c'est obligatoire?
Moi, je le pense pour deux raisons. La première, c'est que la France et l'Allemagne viennent de mettre tout leur poids dans cette histoire-là, n'est-ce pas, d'une part. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui argumenter moralement, si je puis dire, et je parle des États frugaux, en disant on ne va pas prêter aux États qui ont une certaine légèreté face à leurs finances publiques. Non. On sait très bien que ces États sont aujourd'hui plombés, si vous permettez l'expression, et sont en grande difficulté, non pas parce qu'ils ont été imprévenants, mais parce qu'ils ont subi de plein fouet la crise du virus. Et donc, je pense que même les États, disons, un peu réticents, d'abord avec les figures tutélaires de la France et de l'Allemagne, vont être un peu en retrait. Et puis, ça va être très difficile de dire à l'Italie ou à l'Espagne ou à la Grèce ou à la France, écoutez, pourquoi vous prêtez de l'argent alors que vous n'êtes pas assez sérieux dans vos finances publiques? Non. Là, c'est que malheureusement, vous avez été frappé par le virus. Donc, je pense, sans être Madame Soleil, je pense qu'après, évidemment, des tractations, on va en arriver là. Il va y avoir, je pense, une forme, une acceptation. Mais le problème le plus difficile, c'est le pas d'après. C'est-à-dire que si on adopte cette logique-là, ce que j'espère vraiment fortement, il faut alors commencer à tisser les liens, si je puis dire, d'une vraie solidarité européenne, au-delà de cet aspect ponctuel. Et cette solidarité, elle va passer par, gardant le titre de mon petit essai, par une forme d'États-Unis d'Europe, je pense.
Ben merci Monsieur Devolui pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous avez donc publié il y a un an pour les élections européennes, mais que ça reste un sujet d'actualité qui traite du fonctionnement actuel de l'Union. Osons enfin les États-Unis d'Europe, donc publié aux éditions Vérone, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies.
Et qu'on peut retrouver aussi en e-book. Donc voilà, si vos auditeurs vont sur Internet, ils pourront le trouver.
Ben merci, nous on mettra le lien sur notre site web dans la rubrique des podcasts.
Vous êtes fort.
Encore merci Monsieur Devolui.
Merci de votre gentillesse et puis surtout une pensée quand même pour ceux qui sont pris de plein fouet par les conséquences de cette catastrophe.
Merci encore.
Je vous en prie, bonne journée,
bientôt.
Au revoir.